Mais vous avez commencé beaucoup de choses sur le tard, en fait, parce que la scène, c'était il y a combien de temps ?
8 ans.
Il y a 8 ans, donc à 41 ans.
Non, mais la scène, c'est un concours de circonstances. À un moment donné, j'ai raté un embranchement. J'aurais dû faire ça, puisque moi, je monte à Paris pour la première fois de ma vie à 28 ans.
Pour faire de la scène.
Pour faire Jacques Martin, où j'écrivais du sketch. Moi, toute la journée, j'écrivais des sketchs, je les amenais à Jacques Martin, je lui posais sur son bureau, et j'ai commencé à m'écrire un spectacle. Et puis là, il y a Gérard Louvain qui m'appelle. Oh, on m'a parlé de vous, je cherche un jeune, j'ai Foucault, ils m'ont fait un deuxième. Venez faire une émission de télé. Je lui dis, mais je ne suis pas venu pour ça. Vous n'allez pas faire le 1, vous venez faire l'émission de télé. Sans aucun doute, 20 ans. Et un matin, vous réveillez en vous disant, ben mince, je suis passé quand même un petit peu à côté, il faut vite que j'y aille maintenant.
Mais vous commencez des choses tard, parce que vous accompagnez votre fille au poney. Et vous vous mettez à faire du poney.
À 40 ans, c'est vrai aussi. Ouais.
Du poney,
ouais. Non, mais pas du poney.
Et vous avez gagné des compétitions de poney.
J'ai gagné des chamallows.
Et vous gagnez des compétitions devant des enfants.
Et j'ai battu des enfants, oui. Et sans scrupule.
Il paraît que les parents faisaient la gueule.
Bah, j'ai entendu des réflexions parce qu'en fait.
Mais le poney s'écrasait pas sous votre poids.
Non, moi j'avais pas un poney. J'étais dans une catégorie 60 cm. C'est-à-dire que. C'est le plus petit qu'on puisse sauter, vous enjamber en fait. Mais comme je démarre, il faut bien que je démarre par ça, je n'allais pas démarrer 1m20, je me serais tué. Donc c'est comme quelqu'un qui se lance dans la voiture, on ne lui donne pas une Formule 1, on lui donne une Formule 5, une Formule 4.
Mais il n'y avait pas
3.
Des limites d'âge.
Non, je faisais des compétitions où il n'y avait pas de limite d'âge. J'allais voir le speaker en lui disant, bon, il y a des chances que je sois classé parce que mon cheval va quand même 70 fois plus vite que les poneys, puisque moi j'avais un cheval à ma taille. Donc si jamais c'est le cas, vous ne donnez surtout pas mon nom. Et j'entrais sur la piste lors de la récompense, puisqu'on avait le droit à une poche de chamallow, en tenant la main du petit Damien qui avait 8 ans et de la petite Séverine derrière moi, rentrée comme ça. Et maintenant, c'est Julien qui termine deuxième. Et j'entends surtout, il a pas honte. Mais moi, je voulais faire de la compétition pour monter en grade, quoi.
Et alors maintenant, vous faites des compétitions d'adultes ?
Alors, je fais des compétitions d'adultes, mais je me suis
mais
bien calmé.
Mais là, du calmée. Coup, vous avez gagné pas de prix, là.
Alors
là,
si, mais arrêtez, mais c'est pas j'en ai gagné en adulte, mais je ne saute plus très haut parce que je me suis fait très peur. Parce que
c'est dangereux, bien sûr.
Des grosses frayeurs.
C'est-à-dire, c'est le cheval à sauter et pas vous ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cheval s'arrête et vous sautez, mais le cheval reste d'un côté et vous vous retrouvez. Ça m'est arrivé 6-7 mètres après à être coincé par terre, à ne plus pouvoir bouger mes jambes en me disant tu es dans la merde et tout d'un coup les jambes se mettent à bouger. Il y a le cheval qui. Vous voulez aller au milieu, lui passe à gauche, donc en fait vous prenez le pilier en pleine gueule, bam comme ça, il y a eu tout, mais j'ai laissé deux poignets, Minerve
et compagnie. Ah bon ouais. Vous avez toujours vos poignets.
Oui, mais parce que maintenant il y a des gens qu'on appelle des médecins qui opèrent, comme ça, c'est de votre temps, le poignet, de votre temps, quand on se le cassait, on sacrifiait la main, mais maintenant on répare, on remet tout, non,
franchement. Les cheveux, vous avez remis des cheveux.
J'en ai mis un petit peu, puis je l'ai fait une fois, oui bien sûr,
et alors, vous en cache pas. Et alors, ça fait mal
Ça fait mal, non, ce qui fait mal c'est la picouse dans le crâne. Moi, ils m'ont découpé derrière. Ils vous découpent un petit carré de cuir chevelu. Donc, vous entendez mais vous ne sentez rien. Et vous les remettez après un par un. Je l'ai fait une fois. Et alors, figurez-vous que quand j'ai été me renseigner à la clinique où je l'ai fait, je leur ai dit, bon, j'espère que vous gardez quand même la... C'est vrai, hein, ce que je vous raconte, la confidentialité. Et là, le type s'énerve. Enfin, monsieur Courbet, vous plaisantez ou quoi ? Évidemment. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, demandez à Marc-Olivier Fogiel.
Vous dites, Julien Courbet, avoir pété les plombs au début de votre carrière à cause de votre notoriété ?
Pas la notoriété. Moi, je suis un vrai provincial. Hein. Mais alors, j'assume complètement ce côté un peu plouc de province qui est monté à Paris. Et quand on arrive, les choses ont été très vite. Et moi, j'étais vraiment dans ma province, dans cette vie très plan-plan et qui me convenait complètement. Et voilà, la télé, la radio, il faut que tu poses dans tel magazine. On a même essayé de me dire, ça serait bien qu'il y ait une femme à côté de toi, je n'en avais pas à côté, de me trouver une mannequin pour que je fasse une photo, une fausse paparazza. Enfin, tout ça, invité dans des anniversaires de gens connus, mais que je n'ai jamais croisé de ma vie. C'est quand même extraordinaire que vous recevez des cartons de gens très connus qui vous demandent. Après, il ne faut pas se mentir, il y a des tentations, des trucs, des ci, des là, l'alcool. Et à un moment donné, ça n'allait pas très bien. Et puis, j'ai rencontré, heureusement, la femme de ma vie qui m'a remis sur le droit chemin. Et depuis, maintenant, je suis le père idéal, hein, depuis longtemps. Mais c'est très perturbant.
Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire du one-man show dans votre métier d'animateur ? Ça vous a apporté du
énormément.
Recul ?
Énormément. Pas du recul. Je me suis aperçu qu'il fallait que je pouvais exploiter toutes les situations. Avant, moi, je suis de la génération des animateurs des années 90, très formaté. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On coupait les E, on coupait les gros mots. Dès que quelque chose tombait, je ne sais pas, un projecteur s'éteignait, on arrêtait. La scène m'a permis de me servir de tout ça pour
de plus improviser, en fait.
Complètement. de plus improviser et de prendre confiance en moi. À partir du moment où vous vous retrouvez devant 200-300 personnes, vous les entendez rire, vous écoutez, vous vous dites, bon, ben, ça va, tu es capable de le faire, donc tu peux arriver sur le plateau et tenter des trucs que tu n'osais pas tenter, sortir un peu de ton conducteur.
Donc, quand vous avez 28 ans, votre père est renversé par un chauffard et ça vous a marqué pour toute la vie.
Il est mort, hein, donc ça m'a pas marqué. Ça m'a...
L'injustice, la brutalité.
La brutalité, moi, je suis à l'époque, en plus, à la réunion chez un copain qui va être prévenu par ma sœur et qui a mis 3 heures à me l'annoncer parce qu'il ne savait pas comment faire. Et moi, j'étais « Allez, on va sur une pizza !» évidemment, enfin, sois sympa, Lucien, pourquoi tu fais la gueule? Et le pauvre, il devait m'annoncer ça, il ne savait pas comment le faire. Ce qui est terrible, c'est la brutalité. Il marche sur le trottoir, le pauvre, il venait juste d'être à la retraite, et quelqu'un qui avait décidé de boire. Donc, j'en parle uniquement pour pouvoir faire passer ce genre de message, parce que je n'en ai jamais d'ailleurs parlé, je crois. Le type est bourré, il conduit, il le renverse, et là où ça devient glauque et dramatique, et moi je suis obligé de vivre avec ça, c'est pas la soudaineté de la mort, c'est qu'on ne sait pas s'il est mort à ce moment-là. Parce que le type s'est sauvé. Après l'avoir percuté en pleine nuit, l'avoir laissé sur le trottoir, il l'a laissé là. Il s'est sauvé et il a eu l'excellente idée d'aller déclarer sa voiture volée au cas où on le retrouve tout de suite chez la police, qui a senti qu'il était très nerveux, qui a attendu 6 heures du matin, heure à laquelle on peut aller faire des perquisitions pour aller chez lui, qui a trouvé les clés de la voiture sous le matelas. Mais peut-être qu'on aurait pu, vous voyez, le sauver s'il appelle une ambulance tout de suite, etc. Donc on a dû vivre avec ça. En plus, moi, c'est ancienne génération, ma mère n'a jamais travaillé, elle a élevé les enfants, donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain, elle a complètement perdu. Voilà, il faut savoir que derrière l'alcool au volant, je dis bien au volant, ce sont des drames humains. Vous brisez votre vie, celle des autres, etc. Donc que ça serve de leçon à tous ceux qui nous écoutent.
Alors Julien Courbet, vous avez énormément de followers sur Twitter, plus de 600 000. C'est depuis que vous avez travaillé avec Cyril Hanouna, ça ?
C'est vrai que surtout, je crois que je m'y suis mis à ce moment-là, parce qu'avant, je n'y étais pas beaucoup. Et effectivement, le fait d'arriver sur la chaîne...
Vous publiez beaucoup de choses sur votre fils.
Avec mon fils, il est vraiment dans l'âge dur.
Il est d'accord,
là.
Lui, parce que...
Je ne lui ai pas demandé son avis.
Parce que là, moi, je lis vos tweets. « Papa, tu peux me faire mon devoir de maths, ça rentre pour demain, je ne vais pas avoir le temps, j'ai pris du retard. » Vous vous dites, mais c'est ridicule, je suis nulle, j'ai pas fait de maths depuis 30 ans, j'y comprends rien. Et il répond, justement, elle croira que c'est moi.
Non mais, je vous assure que tout ceci est vrai, et je vais vous faire une petite confidence. Donc un jour, je m'amusais à remettre tous ces dialogues qui sont vrais. Hein. Après, effectivement, je l'ajuste un petit peu. Mais je crois qu'il va venir le 25 sur scène en faire 4 ou 5 avec moi, parce qu'à un moment donné, je parle de l'adolescent, je lui dis, écoute, je ne peux pas parler de toi, et viens, et puis on va voir ce qu'on va faire, et donc on va sûrement préparer un petit quelque chose.
Alors, par exemple, vous dites à votre fils, dis donc, vous êtes rentré super tard hier, il dit, on s'est pris la tête avec le chauffeur de taxi. Pourquoi ? Il voulait appliquer le tarif de nuit. C'est normal, non ? Il faisait jour, répond
votre fils. Oui, parce qu'il était rentré à 6h du matin, et comme il estimait, l'autre, il dit, mais ça fait cher, mais vraiment, et le taxi lui dit, mais alors, on est en tarif de nuit, mais vous plaisantez, il fait jour. Que voilà, il y a plein de trucs comme ça.
Vous demandez à votre fils, tu vas faire le dry January, ça va te faire du bien. Et là, votre fils dit, c'est quoi ? Et ben, vous dites, on ne boit pas une goutte d'alcool au mois de janvier. Il répond, il avait bu le mec qui a inventé ça.
Ouais. Il est en école de commerce, donc inutile de vous dire que l'alcool coule à flot.
Julien Courbet, à 50 ans, on passe des examens médicaux ?
Oui, on en passe. Non, mais ça, c'est vrai. Ceci étant dit, à partir de 50 ans, vous êtes obligé. Quand ce n'est pas la coloscopie, c'est la prostate. Là, récemment, c'était la radio des poumons. Et j'étais assez angoissé d'ailleurs. Parce que j'étais un grand fumeur, j'ai arrêté depuis, et donc on vous met en slip, torse nu, et là au bout de 15 minutes, vous attendez seul, et là je vois le médecin qui arrive avec une gueule d'enterrement, vraiment, et qui d'ailleurs sans ménagement me dit, eh ben voilà, vous avez une tache, hein. Au poumon ? Non, au slip. Et donc ça m'a un peu rassuré quand même, enfin il aurait pu ménager quoi.
Alors là, je suppose que la sexualité change à 50 ans, Julien Courbet ?
Ça c'est vrai, on va pas se mentir qu'il y a une petite usure sexuelle. D'ailleurs, si on fait le comparatif avec 20 ans, 50 ans, à 20 ans, quand on est au lit avec sa petite amie en train de regarder la télé, on est d'accord qu'on ne peut pas regarder le film jusqu'au bout parce qu'on a trop envie de faire l'amour. À 50 ans, on ne peut pas faire l'amour jusqu'au bout parce qu'on a trop envie de voir le film. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux, quoi.
Alors, à 50 ans, vous a proposé de jouer le rôle de James Bond ?
C'est vrai, ça, peu de gens le savent. On m'a proposé le rôle de James Bond. Pour une marque de fenêtre. Vous voyez, ça, c'est pas sympa de rire comme ça, parce que là, les gens se moquent, mais vous savez...
Vous auriez aimé être égérie d'une marque de parfum ?
C'est-à-dire que le problème, c'est que vous savez comment on distribue les pubs. C'est vous faites venir toutes les vedettes du monde entier dans une grande salle, il y a un type qui prend le micro et qui dit « Bon, alors, on commence par les stars de cinéma, les autres, vous attendez qu'on vous appelle ?» Et là, vous avez Nathalie Portman, Julia Roberts, qui nous passe devant, d'ailleurs, en nous regardant, il faut le dire, nous, les animateurs télé, comme des merdes. Et elles se choisissent les meilleures pubs, Dior, Givenchy, etc. Et à un moment donné, quand il ne reste plus que des pots d'échappement et des vérandas,
allez les animateurs télé, c'est à vous.
Donc c'est un peu le problème aussi.
Vous avez l'impression que votre carrière d'acteur de pub, Julien Courbet, est bien lancée ?
Elle est très bien lancée, je crois. 50 ans, je fais les fenêtres, ce qui me paraît logique. 60 ans, je prendrai la place d'Annie Dupéré pour l'appareil Audica. Et 70 ans, bah, la pub dont on rêve tous, les futurinaires.
Et alors, c'est pour en revenir à la mort de votre père quand vous avez 28 ans, qui vous a apparu comme une injustice.
Elle est sympa cette émission comique. Hein. Vraiment.
Est-ce que c'est ça qui vous a donné une fibre pour défendre les gens victimes,
oui,
d'arnaques ?
Sûrement. Inconsciemment, peut-être ça, mais même avant ça, j'ai mon grand-père, et ça m'a vraiment marqué. Mes parents sont rapatriés d'Algérie. Je suis le seul à être né en France. Ils sont vraiment rentrés, comme on dit, avec une main devant, une main derrière. Ma mère tenait mon frère dans la main. Mon père l'a mis sur le bateau, a essayé de sauver ce qu'il pouvait sauver. Il a rien. Elle s'est retrouvée, comme dans les films, dans un grand hangar, à passer des nuits là, à savoir où elle allait être logée et tout. Enfin bref, ils ont connu tout ça. Et ils ont refait leur vie, donc très modestement, puisqu'ils sont repartis de zéro alors qu'ils n'étaient plus très jeunes. Et mon grand-père, qui était dans ce cas aussi, allait vendre des montres en porte-à-porte, c'est tout ce qu'il avait trouvé. Et il s'est fait escroquer par un type qui lui a fait acheter les montres. Le pauvre, il avait quasiment rien. Le peu qu'il avait, ça l'a ruiné. Et quand je me rappelle le visage de ce vieil homme, de mon grand-père, qui a passé sa vie, voilà, à fuir son pays, etc. Et inconsciemment, je me suis dit, merde, ça, c'est pas normal. Alors, je pense que tout ça, plus mon père, a fait que je prends plaisir, quand je peux, à le faire, à aider les gens. Ouais.
Alors, Laetitia Milo, vous êtes une actrice très populaire. On vous a vu dans Plus belle la vie, dans Danse avec les stars. Vous avez aussi un feuilleton aussi qui a cartonné sur TF1.
La vengeance aux yeux clairs.
La vengeance aux yeux clairs aussi.
Oui.
Et puis là, vous êtes heureuse parce que vous avez eu un bébé.
Voilà.
Ouais. Félicitations.
Merci.
Et ça a été un peu difficile parce que vous avez révélé que vous aviez de l'endométriose. Donc voilà, c'était une victoire, ce bébé.
Ça a été 10 ans de combat, ça a été très long. J'ai été énormément soutenue par le public aussi. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, elle est là et j'arrive toujours pas à y croire, en fait. Quand je vous parle, je me dis, tiens, ça y est, elle est là. Et j'espère juste que ça donnera de l'espoir, un peu d'espoir à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas à cause de cette maladie.
Là, votre livre, c'est Ma clé du bonheur aux éditions First. Donc, vous donnez des conseils, en fait, pour être heureux.
Mais écoutez, pour tout vous dire, en fait, ce livre, il n'était pas prévu. Je suis en train d'écrire un autre roman dans un autre domaine. Et c'est vrai que lorsque je suis tombée enceinte, je me suis dit, tiens, c'est génial. Enfin, j'ai obtenu mon plus grand bonheur. Et ça m'a donné envie d'écrire. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre... Alors, je n'ai pas raconté ma grossesse, hein, dedans. Enfin, j'ai un petit chapitre sur la grossesse, mais ce n'est pas le principal sujet. Je me suis dit, je suis heureuse et j'ai envie de donner mes astuces, des conseils pour essayer de donner l'envie de positiver.
Ceux qui ne vont pas bien, parlez-leur, Laetitia Milo.
Parlez-nous.
Là, il y a trois fers dans l'équipe. J'ai abordé plusieurs domaines, donc que ce soit la vie privée.
Alors déjà la vie privée, donnez-nous des conseils.
Dans le couple ou pas, ou...
Non, bah, déjà non, pour être en couple.
Oui, on aimerait
être en couple. Écoutez, je suis pas non plus. Je suis pas psychologue non plus.
Si.
J'ai essayé de donner ma clé du bonheur qui marche sur moi.
Alors
j'espère qu'il y en a plein.
Oui, alors mais
c'est très simple au quotidien, j'en sais rien. Alors dans la vie quoi, privée,
ouais,
du coup dans
privé,
le couple.
Privé.
J'essaie de donner des petites astuces pour que
se brosser
le
couple,
ça n'empêche le sourire, j'en parle.
Bah oui.
Se brosser les dents, c'est très important. Ouais. Le sourire est très important. Voilà.
Ouais, moi,
quand
souris beaucoup.
Vous êtes ouvert au monde. Et... En fait, voilà. Par exemple, c'est vrai que je mets en avant qu'il faut plus s'ouvrir au monde, avoir le sourire aux lèvres, enfin, voilà, être heureux, c'est-à-dire donner l'impression d'être heureux, on attire les gens. Tandis que si on est négatif, si on est aigri, si on sourit jamais, si on parle jamais à personne, évidemment personne va venir vers nous.
Je me suis fait plaquer par mon ex qui s'appelait Laetitia. Bah, j'aurais dû vous choisir vous.
Pourtant Laetitia normalement c'est un prénom qui veut dire joie, donc
bah, joie pour elle, mais joie à moi effondrée.
Donc être positif en fait, Laetitia Milo, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, ne pas se plaindre en fait.
Mais regardez à côté de soi, regardez, il y a bien pire que soi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, moi, je suis entourée de deux. Suffit que je tourne la tête à droite et à gauche.
Non, mais mieux. C'est vrai, il y a mieux, il y a pire. Voilà, donc regardons l'avenir, essayons de se projeter.
Et puis quand on a des contents, parce que vous avez eu des grosses épreuves, vous avez perdu le premier homme que vous aimez de maladie très jeune. Voilà, ça a été très, très dur, ça.
Ça a été une grosse épreuve.
Vous l'avez accompagné jusqu'au bout.
Mais que lui a surmonté aussi, malgré tout, c'est-à-dire il a gardé le sourire jusqu'à la fin. Et c'est lui qui m'a donné cette positivité. En tout cas, c'est lui qui m'a dit « te laisse pas abattre, souris à la vie et tu verras, tu souriras ».
Vous avez passé beaucoup de temps aussi avec votre maman qui était infirmière quand vous étiez petite, dans un hôpital.
Oui.
Parce qu'il n'y avait personne pour vous garder, donc vous alliez lui tenir compagnie.
Mais j'adorais en fait. J'adorais aussi aller la voir à son travail. D'ailleurs, j'ai choisi de faire mon stage au collège dans son hôpital. Et c'est vrai que j'allais voir les personnes et je parlais avec eux. Je leur racontais ma journée à l'école ou à la danse, parce que je faisais de la danse à l'école à l'époque. Et donc, ça, je voyais une lueur dans leurs yeux qui
vous avez même dit que vous auriez pu faire du social, en fait. Vous
bah
avez
ouais.
hésité.
Ouais. J'ai beaucoup hésité parce que ça me faisait chaud au cœur que...
Parce que vous avez une générosité en vous naturelle, Laetitia Milo, en fait.
Bah
ouais.
Oui.
Naturelle, ou peut-être que c'est dû encore une fois à mes parents.
Parce que vos parents ?
Mais parce qu'ils m'ont élevée dans cet objectif-là, peut-être aussi.
Il y a des moments où vous n'allez pas bien quand même, Laetitia Milo.
Il y a des moments où je ne vais pas bien, mais je dis dans le livre encore une fois. Il y a des moments, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai eu beaucoup de moments où ça n'allait pas bien. Mais encore une fois, il faut regarder à côté. Il y a pire.
Vous donnez des recettes de cuisine aussi, Laetitia Milo.
Ouais,
ça fait partie du bonheur aussi.
C'est salade d'endivonnois.
Bon, ça va, c'est très
dur.
Bon pour la santé, les endives.
C'est pas dorade en croûte de sel.
Non, avec j'ai voulu sortir une recette avec des endives parce que c'est bon pour la santé. Oui. Voilà. Et on les oublie souvent.
Et ma mousse de mangue.
La mousse de mangue.
Ouais. Mmh. Ouais. Et jouer sur la détox.
Ah. Alors après, vous l'avez déjà fait.
C'est une énigme pour Anne et pour nous.
Vous l'avez déjà tenté ?
De quoi ?
La détox.
Une détox.
Oui.
Ah ouais, bah je suis en plein dedans.
C'est vrai ?
Enfin non, je suis une détox d'alcool là en ce moment.
Vous dites, pour ma part, j'apprécie de suivre cette cure avec de la pomme. Je trouve qu'on peut varier. Alors vous faites une journée de pomme en fait ?
Trois jours. Normalement, c'est bien trois jours. Alors après, effectivement, si on ne tient pas trop, on peut faire une journée pomme, une journée carotte, une journée raisin. Ou alors, allez, une journée pomme. Mais bon.
Mais Anne, tu connais
ça par
cœur.
Si vous voulez tous les bienfaits, c'est trois jours du même aliment. Monodiète.
Ah bon. Monodiète, tu es là avec la pomme, c'était ton truc.
Moi, je fais qu'une journée, moi.
Et c'est génial, en fait.
C'est hyper dur.
Alors, c'est dur, mais au bout du troisième jour, enfin donc le quatrième jour, vous n'avez plus de boutons, vous avez le ventre plat, vous avez une peau claire, vous avez l'impression de respirer.
Mais combien de
pommes ? Respirer et vous nettoyez vos intestins.
Autant de pommes que tu veux.
Alors, attention, ce n'est pas fait pour maigrir. Voilà, c'est fait pour nettoyer son organisme.
Et vous avez mon astuce teint rose.
Et faites-le avec l'accord du médecin, parce que sinon après...
Mon astuce teint de rose, si vous voulez dire adieu à votre peau grisâtre et terne, Léa. J'ai l'astuce qu'il vous faut. À jeun, buvez le jus d'un citron dilué dans un verre d'eau tiède.
Mais c'est ce que je fais tous les matins.
C'est le meilleur truc que je connais.
C'est pour ça que vous avez tous un super beau teint.
Et pour ses cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire pour
les cheveux?
Il y a marqué l'astuce aussi. C'est
quoi l'astuce?
L'astuce Ben H. Alors il y a 8 pages.
Si c'est l'huile d'olive, ça va être chaud.
Ah, il y a petit truc pour se disputer sereinement.
Ah, ça oui.
Ah, ça,
c'est pas mal. Ça, il faut
se disputer sereinement.
Oui. Voici quelques petits trucs pour éviter de déterrer l'âge de guerre trop souvent. Souvenez-vous que vous aimez votre conjoint. Ne ruminez pas, dites les choses sur l'instant et gentiment. Ah ouais. Ne soyez pas blessante, c'est totalement contre-productif. N'accusez pas l'autre, ne généralisez pas. Dites, tu laisses toujours la cuisine en bazar et pas, peux-tu débarrasser la table s'il te plaît ? Non, il faut dire.
Oula.
Non, non. C'est pas débarrasser la table.
Ouais.
C'est peux-tu débarrasser la table, s'il te plaît.
Et puis faire la lessive, la vaisselle. Et puis
différer la discussion si vous sentez que la moutarde vous monte au nez. Allez faire un petit tour, vous serez plus calme pour parler après. Ne soyez pas rancunier en amour. Lorsque vous quittez le matin en allant déposer un, dites-vous je t'aime comme si c'était la dernière fois que vous vous voyez.
Et oui. Ça, c'est, ouais. Parce que ça, en fait, ça arrive tellement. C'est vrai qu'on a l'impression que voilà, on laisse installer la routine, les habitudes, et puis finalement on part, on dit allez ciao à ce soir. Puis si ça se trouve, il nous arrivera quelque chose. Et puis
il
voilà,
y a ma playlist.
On n'aura pas dit je t'aime pour une dernière fois.
Il y a ma playlist Lover.
Ah ouais. Il y a quoi dedans?
Onde sensuelle de M, Crazy in Love de Beyoncé. Ma Benz de Brigitte.
Ouais.
Bang Bang de Nancy Sinatra.
Ah oui, magnifique.
Et encore, j'ai été obligée de faire des shortlists. Hein. C'est dommage parce que... parce que vous pensez bien que mes playlists...
Elles durent des heures.
Ouais, ouais, grave.
Mes astuces pour ne pas craquer comme la plupart des gens.
Lucky Peterson. Mmh.
Ah ouais.
Jason Blues.
Le zizi de Pierre Perret.
Oh là là.
Comme la plupart... quel est le rapport avec Lucky Peterson?
Regardez Léa. Je bah, dis, tiens.
Voilà. Et puis après, tu te demandes pourquoi elle t'a quitté, t'as Laetitia.
Voilà.
Comme la plupart des gens, je suis parfois sous pression au travail, donc j'essaye de relâcher la tension en me déconnectant à la maison. Si un sujet professionnel vous tracasse, essayez de ne pas en parler non-stop à la maison.
Et au travail, enfin au travail ou dans la vie privée ou tout ça, mais au travail, c'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas dire non, voilà. Mm-hmm. Et c'est vrai que je dis, c'est simple, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est que des astuces simples.
Il y a aussi, si le plan A ne marche pas, il reste encore 25 lettres de l'alphabet. C'est pour toi, Jérémy, ça.
Ah ouais, mais moi, je connais que le plan Q.
Là, on me dit que dans le public, il y a deux fans qui sont là.
Oui.
Il y en a une qui vient exprès de Rouen pour vous voir. Bah venez, venez au micro.
Oh là là,
oh là, là, là. Alors là, ça y est.
Laurent Gentleman.
Mais bien sûr.
Vous êtes fan de Laetitia Milo alors?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est un bel exemple. C'est vraiment une personne généreuse, humaine. Et elle m'a touchée en plein cœur. Voilà, tout simplement.
Bon, bah ça, c'est joli.
Je vous jure, je ne l'ai pas payé. Hein.
Alors, on a le plaisir de vous recevoir pour le troisième album, Il était une fois.
Merci.
Il était une fois, c'est un conte qui parle d'un éternel insatisfait qui avait les yeux plus gros que le monde.
Ah, c'est pas mal.
C'est ce que vous vivez, depuis que vous avez rencontré le succès, vous avez l'impression de vivre un conte de fées, Black M ou...
C'est un conte qui ne s'arrête pas. C'est un conte sans fées. Il n'y a pas de fées dans mon conte. Et c'est un conte urbain. C'est ce que je vis, ce que je vois, ce que...
Vous dites que votre dernier album, vous aviez travaillé chaque son pour qu'il passe en radio. Et là, vous vous êtes dit, vous avez travaillé chaque texte pour qu'il soit fort, qu'il veuille dire quelque chose. C'est important.
J'ai travaillé chaque texte sans me soucier de où est-ce que ça va aller, plutôt. J'ai vraiment travaillé chaque texte selon mon vrai ressenti. Même les sonorités, voilà, j'ai pas essayé de faire des tubes radio, je me suis concentré vraiment sur ce que j'aime.
Alors vous avez beaucoup travaillé avec Vianney sur cet album, ouais. Ça paraît curieux, l'alliance Vianney-Black M.
Ça paraît curieux comme ça sur le papier, mais Vianney c'est un grand connaisseur de rap français, il est au courant de tout, au niveau de l'urbain, et on s'est toujours dit qu'on... Je le connais depuis 2014, on s'est toujours dit qu'on aimerait bien travailler ensemble, et l'année dernière on a trouvé un peu de temps. Donc on s'est retrouvés en studio et voilà.
Ça donne un très joli duo sur les SDF, on écoute.
J'étais celui qui voit la mer en juillet, celui qui fête Noël bien entouré. Tous les matins, le sourire de mes enfants, un bon café, mon journal et mes croissants. Eh hey, mon gros boulanger, est-ce que tu m'as déjà oublié? C'était moi qui te laissais la monnaie, ça t'irait de me la redonner? Je t'emmerde comme j'emmerde le monde, vous faites tout semblant, vous savez tout ce qui je suis. J'ai pas changé, j'ai juste déménagé et je n'ai plus de quoi nourrir ma petite fille. Je me reconnais dans vos petites filles. Ah, qu'est-ce que j'aimais ma petite fille. Je m'enivre, tu m'évites, je sens fort, c'est vite dit. Je ne veux pas de ton sandwich, putain, ça ne me fera pas oublier que je me suis vu au Zénith et sur le trottoir le jour d'après. Ainsi va le seul.
Elle vous tenait à cœur cette chanson, Black M?
C'est mon morceau préféré de tout l'album parce que Vianney m'a emmené musicalement dans un univers où les rappeurs ne vont pas, c'est une valse. Et au début ça me faisait peur mais au final c'est magique. Et ensuite au niveau du thème, c'est un thème que j'ai depuis très longtemps dans la tête. Enfin, j'ai pas grandi avec des SDF mais je connais pas mal des SDF. Il y en a que j'ai vu mourir, il y en a qui m'ont vu réussir dans la musique. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et au-delà du morceau, j'aimerais me lancer dans une cause pour les aider.
Vous dites que vous voulez aider la Fondation Abbé Pierre ?
Ouais, je les connais bien, on les connaît bien avec mon équipe. Et du coup, on s'organise pour essayer de faire de grandes choses.
Alors, il y a une chanson sur le harcèlement scolaire.
Exactement.
J'aimerais me fondre dans la masse, mais je ne trouve pas. Tu me connais pas, je vais rentrer dans les détails. Tartine au Nutella, en écoutant du métal. Pédale, calme-toi, ce n'est que le mot de passe. Connecté sur les réseaux, en attendant le coup de grâce. Le jour je suis docteur victime, le soir je suis Mr Hyde. Ma vengeance est ultime, mes ennemis sont pas de taille. Moi j'en peux plus de leur claque dans le cou.
Vous avez vous-même été victime de harcèlement de la KEM ? Pourquoi ça vous... Comment ça non, vous est venu cette chanson ?
Non, j'ai pas été victime de harcèlement scolaire. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vu des élèves plus jeunes se faire harceler par d'autres jeunes. Et aujourd'hui, ce qui m'a vraiment inspiré à écrire ce morceau, c'est que j'ai un public très jeune et je reçois beaucoup de messages de lycéens, collégiens, de jeunes qui me disent qu'ils subissent le harcèlement scolaire et qui vont même parfois me dire jusqu'à me dire qu'ils ont envie de se suicider.
Mais qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un message comme ça ? Black M, c'est une super responsabilité du coup.
Bah, c'est trop pour moi, je reçois j'essaie de répondre à ma manière, ouais. Avec mes mots. Et du coup, bah, parfois c'est positif, parfois j'ai pas de réponse, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est ce qui m'a inspiré ce morceau pour sensibiliser ceux qui se font harceler et ceux qui harcèlent, parce que le morceau, il se finit en drame. Souvent, ça se termine en drame dans le harcèlement scolaire. J'avais envie d'appuyer dessus pour que les jeunes, ils se sentent concernés dans...
Alors, il y a des chansons plus légères aussi, Black M, dans cet album. Vous avez enregistré une chanson sur votre beau-frère. Ouais. C'est le fruit d'une véritable envie, c'est un acte de diplomatie. C'est quoi le beau-frère idéal selon Black M ?
C'est mon beau-frère.
Parce que là, vous le menacez quand même.
Ouais, mais c'est du second degré.
On écoute.
Bienvenue, mon frère, mais attention quand même. Bienvenue, mon frère, mais attention à elle. Bienvenue, mon frère, mais attention quand même. Bienvenue, mon frère, tant que tu l'aimes, on t'aime. Bienvenue.
Alors, dans le clip vidéo, votre beau-frère est incarné par Ryan Bensetti. Ouais. Ça va, quand il y a Ryan Bensetti qui débarque, on est rassuré quand même.
Grand bonjour à Ryan Bensetti. Ouais, bah, c'est un ami à moi. Après, dans le clip, il y a beaucoup de fiction. On le voit sauter en parachute. Mon ouais. vrai beau-frère n'a pas sauté en parachute.
Comment il s'appelle, votre vrai beau-frère ?
Nicolas.
Il a bien pris la chanson ?
Bah, c'est lui qui m'a demandé de l'écrire.
Ah
c'est
oui ?
Ouais, il m'a pas demandé, il m'a dit, j'étais sur l'écriture du troisième album, mais il m'a dit un jour, tu sais, Alpha, si t'écris un son sur moi, il va cartonner. Et je lui ai dit, je retiens ce que tu viens de me dire, tu vas voir, je vais vraiment le faire. Et il m'a pas cru, et finalement, je l'ai fait.
Ouais, il fait quoi comme métier, votre beau-frère ?
Comment ?
Il fait quoi comme métier, votre beau-frère ?
Il travaille dans les banques.
Ah ouais ?
Ouais.
Et alors, il a dit à ses collègues qu'il avait une chanson sur lui ?
Bah, je pense qu'ils sont tous au courant.
Ouais. Est-ce qu'on peut pas vous demander d'écrire, par exemple, une chanson pour ma belle-sœur ?
Pourquoi ?
Vous dites, pour cet album, Black M, j'ai travaillé comme un malade pour cet album, même au niveau sportif. J'allais à la salle de sport 3 fois par semaine avec le coach de ma femme.
Ouais.
Comment ça, avec le coach de votre femme ?
Bah, elle m'a présenté son coach parce qu'elle fait beaucoup de sport.
Il n'est pas trop beau, le coach, ça va ?
Si, il est beau gosse, ça va.
Ah ouais,
ouais, il est beau gosse.
Mais il a confiance. Vous avez confiance.
Ouais, j'ai confiance. C'est mon frérot, moi, aujourd'hui. C'est un vrai pote.
Ouais.
Et très respectueux. Et il donne des cours à beaucoup de monde. Et du coup, ouais, il m'a pas lâché. Ça fait 2 ans qu'il me lâche pas. Et
ah
on,
ouais
fait, on fait beaucoup de crossfit. Ça fait du bien à la tête et physiquement aussi.
Là, vous êtes musclé du coup.
Je sais pas.
Par rapport à Maître Gims, pas encore. Quoi.
Pourquoi
Maître Gims, il est musclé.
Non, il n'est pas trop musclé. Oh
bah,
il est
baraqué quand même.
Il est baraqué, ouais, il est grand, mais il n'est pas taillé.
Il est grand et.
Mais c'est les lunettes qui font ça.
Il n'est pas sec. Ouais. Non, il n'est pas sec. Mais quand il m'a vu faire du sport, il s'y est mis aussi pendant 2-3 jours.
Ah, 2-3 jours. Ça vous. On a le track Black M quand il y a un nouvel album qui sort, on se demande quel titre le public va aimer, pas aimer, ou alors vous avez tellement travaillé que vous dites ben, à la grâce de Dieu, on verra ce qui se passe.
C'est un peu des deux, la veille on est très très stressé, et après c'est vrai que pour une fois, parce que le premier album j'étais dans le doute énormément, le deuxième je voulais surfer sur le succès du premier, donc j'y suis allé sans trop calculer, mais là je suis vraiment retourné à la source de ce que moi j'aime faire. Et du coup, je suis beaucoup plus confiant. J'aime beaucoup en parler de cet album. C'est pour ça que pour une fois, j'aime bien faire de la promo.
Et d'habitude, vous n'aimez pas faire la promo ?
Non, d'habitude, j'aime moins faire de...
Sauf avec moi.
Sauf avec vous, Anne.
Vous êtes née le 27 décembre à Paris, de parents guinéens. Votre papa cuisinier, votre maman aide-soignante, entourée d'amour.
Exactement, ouais.
Et vous dites que votre mère vous a toujours soutenue, elle suit tout ce que vous faites.
Toujours, toujours, toujours.
Et votre père, il fait genre, il s'en fout.
Aujourd'hui, beaucoup moins. Il ne peut plus faire genre, il s'en fout. Il est très fier aujourd'hui.
Mais au début, il avait du mal.
Mais au début, ouais, jusqu'à ce qu'on remplisse, je crois que c'était l'Élysée-Montmartre avec la section d'assaut.
Ouais.
Il était venu juste pour voir s'il y a du monde. Les 5 premières minutes après, il est parti.
C'est vrai.
Il a pas si
ça qui était pour vous, c'est tout.
Ouais. Non, mais il se demandait si c'était vraiment réel ce qui se passait autour de la section d'assaut. Et ma mère l'a tiré par le bras, l'a engrainé jusqu'à la salle. Et ouais, il est resté les 5 premières minutes. Après,
c'est
il est
tout.
Parti. Il a juste regardé le monde qui rentre.
C'est fou. Ouais.
Il a compté la recette et,
ouais. Et il est parti.
Il vous a fait des compliments, votre père, quand même.
Ouais, depuis, bah, bien sûr. Depuis, ouais. Depuis en 2016, j'ai fait un concert en Guinée. Donc quand je suis arrivé, c'était.
L'émeute.
C'était une grosse émeute. C'était une grosse fête. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait plus de 5000 personnes.
Waouh.
Et du coup, lui, ça l'a touché, ouais, il a fondu en larmes un peu. Ouais. Et du coup, ouais, c'est touchant, il est fier aujourd'hui. Et ça me donne encore plus de force.
Ah ouais. Alors, vous faites partie du collectif Section d'Assaut qui s'est fait connaître du grand public en 2010 mm-hmm. avec l'album L'école des points vitaux et le tube ouais. Désolé.
Exact.
Et
j'ai dû tatouer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû tatouer le pavé.
Ensuite, le succès se confirme avec l'Apogée, deuxième album, 700 000 exemplaires. Et puis après, vous avez donc démarré cette carrière solo. Mm. C'est un moment où vous leur avez dit. Ce qui est bien, c'est que ça reste vos amis. En fait, il n'y a pas eu d'embrouille. Ouais. Parce que souvent, souvent, avec le succès, les gens se.
Non, il n'y a pas eu d'embrouille. Vous savez, moi, je ne voulais même pas à la base me lancer en carrière solo. Hein. J'étais vraiment focus sur des albums Section d'Assaut. Et c'est quand Gim s'est lancé en solo qu'après, le producteur de tout le collectif m'a dit c'est à ton tour. Et je n'étais pas prêt, en fait.
Ah ouais?
J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. J'ai dû créer un album. Dans cet album, il y avait le morceau Sur ma route. J'étais encore moins prêt avec ce morceau. Parce
bah là,
que...
on l'écoute quand même ce morceau. Là, pour quelqu'un qui n'était pas prêt, Black M, 189 millions de vues sur YouTube, quand même.
Je m'y attendais pas du tout.
Vous avez aussi eu la chance d'enregistrer un titre avec la chanteuse Shakira.
Ouais, en 2007.
C'était une belle expérience, ça.
C'était incroyable. Même en l'écoutant, là, j'ai l'impression que c'est toujours, c'est un rêve.
Vous étiez ému. Et alors, quand elle est arrivée, Shakira, vous osiez pas aller la voir. C'est votre femme qui vous a dit "Vas-y, faut la détendre."
Non, c'est pas ce qui s'est passé exactement. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé très tôt le matin. Elle est arrivée vers midi et j'étais déjà en train de tourner. Et d'un seul coup, j'ai vu une petite femme parce qu'elle est petite de taille. Sur ma droite et me dire bonjour en français, bonjour Black M, c'est Shakira. Et je me suis retourné et c'était vraiment Shakira. Et dans ma tête, j'avais oublié qu'elle parlait français parce qu'on m'avait dit qu'elle parlait français. Donc je me suis dit, mais c'est une blague. Ouais. Et en fait, ouais, c'était Shakira, super gentille, super humble. Elle est restée toute la journée. Effectivement, ma femme m'a dit à un moment donné, vas-y, faut la mettre à l'aise. Il faut qu'elle se lâche, on veut qu'elle danse comme dans ses clips et tout. Et on y est allé et finalement, elle s'est lâchée comme dans ses vrais clips.
Alors, il y a eu aussi la polémique aussi avec Verdun. On en a beaucoup parlé parce que...
Vous étiez là?
J'étais un peu là. Ouais. Je vous ai envoyé un tweet la nuit.
Ouais.
Et après, vous m'avez demandé d'apparaître dans votre clip.
Exactement.
Et ça a marqué ma carrière.
Ça a marqué la mienne aussi.
On écoute un extrait de cette chanson. Je suis français. Alors quand même, grâce à vous, Black M, je me suis retrouvée sur le plateau de Taratata. Et alors j'ai dit à Nagui en lui disant, c'est incroyable de me retrouver dans Taratata, c'est vraiment...
Ah, c'était la première fois.
C'est la première fois, il me dit oui, ce sera la dernière.
Alors Ariel Dombal, oui. Vous êtes née aux USA, sur la côte oui. Est, mais c'est en Amérique latine, au Mexique, que vous avez passé votre enfance. En résumé, vous êtes... Et après, ça a été... Ce qui explique peut-être, Ariel Dombal, votre côté fantasque, joyeux, avec toujours l'idée d'apprivoiser la mort. Vous avez grandi dans une famille qui comportait de fortes personnalités.
Oui, exactement. Donc j'ai eu la chance comme ça d'être entourée, dès que j'ai été un bébé et que j'ai ouvert les yeux, de gens très étonnants et de gens très divers. Donc ça m'a donné un goût de l'autre et de l'autre différent.
À partir de 18 ans, vous avez vécu en France, en Europe. Le choc a dû être rude. Ça a été quoi le plus gros choc quand vous êtes arrivé en France ? La nourriture, la mauvaise humeur, l'accordéon, l'alcoolisme, la température ?
Non, je trouvais qu'au contraire, les gens étaient très très bien élevés. Il fallait traverser sur des clous.
Ah oui, pour trouver du boulot. Important.
Non, je trouvais que, bien sûr, le Mexique, vous savez, c'est quand même l'anarchie. Hein. La police est corrompue, l'armée aussi. C'est quand même un pays haut en couleur, très, très, très aventureux. Et donc, un pays de la drogue et du cartel et aussi de l'immense misère. De la vraie pauvreté. Donc quand on arrive en France, on se dit « Ah, c'est un pays tellement civilisé, tellement sage, tellement beau, tous ces châteaux, tous ces jardins, toute cette civilisation française. » On est ébahi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit maintenant toute cette manne touristique qui arrive, la France continue à faire rêver d'une manière incroyable.
Ariel Dombal, vous venez nous parler du spectacle Les Parisiennes. Oui. Vous jouez dans ce spectacle musical aux côtés d'Elena Noguera, Ina Moja et Mareva Galanter. Ce sont elles, les Parisiennes, une Américaine née au Mexique, une Portugaise de Belgique, une Malienne, une Tahitienne.
Eh bien voilà, c'est ça qui est merveilleux avec Paris. Paris, Paris, les Parisiennes, la France. C'est que c'est un pays de mixité. Paris, c'est finalement un carrefour de science, d'art. Et on peut venir d'ailleurs et devenir parfaitement parisienne. Comme dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas parisienne, on le devient.
Parisienne, donc c'est un état d'esprit, c'est une frivolité, c'est jeter ses mégots dans la rue avec grâce, c'est s'allumer entre les rats avec un vélib, c'est quoi être parisienne ?
C'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça. Et puis, c'est l'esprit de Paris, c'est cette chose qui est unique et dont le monde entier nous envie.
Excusez-moi, on entend des sonneries. Il y a quelqu'un qui a un portable qui sonne là. Ariel, c'est pas votre portable ?
Alors voyons.
On a trouvé la coupable.
Bon, ça va, c'est pas grave.
Bon, mais cette fois-ci, j'ai éteint l'appareil. Et alors, il paraît que maintenant, on est puni à l'école.
Oui. Et là aussi, vous allez être puni, Ariel Dombal.
Ah oui, c'est vrai. Là, je dois dire que j'ai pas été.
Vous êtes une accro du portable, Ariel Dombal ?
Pas encore, bien que je me suis mise sur Instagram.
Oui.
Et j'avais toujours le plus grand mépris en me disant, mais non, mais toutes ces amies qui sont sur Instagram, qui ne vivent plus la vie, mais elles sont sur leur mobile. Et elles passent la vie à essayer de trouver une photo qui fasse en sorte que la vie est merveilleuse, etc. On est dans sa salle de bain toute seule et tout ça, on met trois pots de fleurs et on prend des pauses. Bon, et finalement, je me suis prise au jeu d'Instagram. J'adore.
Quel genre de photos vous publiez, Ariel Dombal ?
Je publie des vidéos.
Ouais. Pas de photos.
Des photos. Non.
Des photos.
Non. Des photos érotiques. Non. Je pourrais, mais je crois que c'est interdit, non ?
Non.
Bon. Moi, j'en publie régulièrement.
Ouais. Sur un compte privé, alors, mais parce non. qu'on te suit. Hein.
Oui, ah bon, vous faites ça.
Mais non !
Mais ça ne m'étonne pas. Ah, mais... Vous soulevez votre petite robe rouge.
Vous êtes toujours élégante, Ariel Dombal, ou des fois vous êtes en vieux t-shirt pourri ? Non. On a l'impression que ça n'arrive jamais,
un
ça.
Un jogging le dimanche ?
Non. J'essaye toujours de enfin, j'adore l'élégance, j'adore les vêtements. J'essaye toujours.
Il
n'y
a pas des moments
soit...
de laisser aller, jamais ?
Quand vous êtes au camping, non. vous...
Vous dites que vous dormez en nuisette. Vous avez toutes sortes de nuisettes qui glissent en soi.
J'adore les vêtements de nuit et tout ça. Il y a aussi la vie la nuit. Voilà, la vie la nuit, il ne faut pas se mettre entre parenthèses.
Parfois, on n'a rien à faire. Si on est tout seul, vous dormez en nuisette quand vous êtes toute seule ?
Oui. Je mets des jolies choses pour dormir. J'aime ça. Je trouve que c'est voluptueux, quoi. On touche du satin, de la soie.
Il faudrait que j'essaie d'en mettre une, moi aussi. Vous m'avez donné envie.
Mais oui. Mais vous dormez tout nu ?
Moi, tout nu, oui.
Ah bon, mais vous choquez nos auditeurs, là.
Ah ben, je dors pas avec eux non plus, hein.
Vous n'aimez pas les hommes qui dorment tout nu, Ariel Dombal ? Un homme doit mettre une nuisette également ? Comment ça se passe ?
Non. Mais ça, je n'entrerai pas dans les détails de ce que doivent faire les hommes ou les femmes. Est-ce que vous dormez nu, vous ?
Elle dort pas, elle n'a pas vu venir le retour. Allez, fais boomerang.
Non, alors moi, j'aime aussi assez les nuisettes. Ah. Non, j'aime pas trop dormir nu. Après, ça dépend des circonstances.
Ça dépend de qui dort avec.
Non, mais quelqu'un vous enlève la nuisette et c'est merveilleux. Ah oui. Mais la voir est pas mal.
Arrêtez de lui parler de choses qui lui rappellent des anciens souvenirs.
Vous lui faites du mal à notre âme.
Ben H voudrait vous séduire, Ariel Dombal.
Oh là,
déjà, il a la chemise.
Ouais, c'est vrai.
Mais ces boutons, c'est pas possible.
Oui, enlève un bouton.
J'ai pris celle qui était la mieux repassée.
Non,
en fait,
c'est pas ça, c'est que c'est des boutons. On ne met pas des boutons noirs avec une chemise blanche. C'est une faute de goût, Ariel. Ah ouais.
Enfin, une chemise grise. Ça peut être mignon, ça peut être dandy, mais là, vous avez peut-être un peu forci. Et ça s'entrebâille un petit peu entre les boutons.
Oui.
Mais bon, mais vous avez mis un t-shirt en dessous.
C'est la première fois en 30 ans qu'on me dit que j'ai forci. J'ai le même corps depuis que j'ai 11 ans. Donc, c'est avec plaisir.
Est-ce que tu as un t-shirt en dessous? Elle pense que tu as un t-shirt en dessous.
Oui, j'ai un t-shirt en dessous.
Oh là, l'œil.
Ah oui, ça non, ça non.
C'est un petit juste corps.
C'est une faute de goût. C'est une faute de mignon. C'est mignon. Non, non.
On dirait un commercial de chez Carglass.
On est chez Christina Cordula ici. C'est. Bref. Dans cette émission, grâce à Anne Roumanoff, Ariel Dombal, j'ai la chance d'écrire des portraits de femmes aux carrières vertigineuses. Nicole Calfan, Nicole Croisy, mais aussi des femmes qui ne se prénomment pas Nicole, comme Amélie Nothomb, Claire Chazal ou encore Eddie Mitchell. Toutes ces femmes m'ont impressionné, voire ému à l'heure d'entamer une saillie verbale à défaut de saillie tout court. Mais vous, Ariel Dombal, vous, c'est différent. Non, ce midi, je n'essaierai pas de vous séduire, bien que mon nom commence par un B et se finisse par un H. Il me manque un L pour vous tenter et une deuxième pour m'envoler avec vous. Non, on ne s'aligne pas sur Bernard-Henri Lévy, mi-philosophe, mi-super-héros. Dans certains pays, on ne dit même plus « Oh mon Dieu », mais « Oh mon BHL ». J'ai beau avoir mis une chemise blanche et fait un soin capillaire ce matin. La dernière fois que moi, j'ai philosophé, c'était sur Olivier Giroud, dans un bar PMU. Et Ariel Dombal, dans un bar PMU, c'est comme trouver du travail en traversant la rue, c'est du jamais vu. Ariel, vous êtes le rêve absolu de nombreux hommes, car vous réunissez deux qualités rares. Vous ne parlez pas, mais vous murmurez, et vous ne vieillissez jamais. Printemps selon les mauvaises langues, mais à peine 22 ans selon ma rétine. C'est impressionnant ce que j'appelle l'effet Ariel. Quand Ariel Dombal est entré dans le studio, immédiatement Léa Landau a pris un coup de vieux. Ariel prend le temps qui avance et le balance à la tronche des autres femmes. Mais parler de vous en abordant que votre plastique serait vous rabaisser aux poupées qui en sont faites et que votre taille a clairement plagié. Car Ariel, c'est aussi une voix, un esprit, de nombreux rôles, de nombreux titres et une représentante de l'élégance à la française pour celle qui a grandi bien loin de nos frontières, dans un pays qui voit peu grandir de petites têtes blondes aux yeux bleus, le Mexique. On l'imagine mal, mais à la base, Ariel, c'est Mowgli. Si Disney devait adapter votre vie, en gros, ça donnerait Wendy de Peter Pan qui naîtrait dans le livre de la jungle pour partir tel Pocahontas, épouser Woody le cowboy de Toy Story et finalement devenir Cendrillon. Le regretté Jérôme Savary, qui vous a mis en scène, disait de vous « Elle est réelle quand on la connaît, surnaturelle quand on ne la connaît pas et parfois on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs. » Bah c'est ça, le truc. Vous venez d'ailleurs. Vous restez un peu ailleurs, d'ailleurs. Une double culture subtilement omniprésente en vous. Il y a Versailles et le fantasme d'une petite fille du Mexique de jadis, fantasmant la civilisation, la sophistication et puis cette douce folie naïve qui vous habite. C'est juste le petit bout de jungle que vous avez gardé de là-bas.
Oh, c'est mignon. Non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On a toujours peur des portraits, on se dit « Oh là là, ça va être des sortes de caricatures absurdes ». Mais là,
pas
c'était
ici,
très joli. Ben non.
Vous maquillez dès le matin, Ariel Dombal?
Je mets du rouge à lèvres et du parfum, mon parfum.
Oui, vous avez un parfum qui est fait sur mesure pour vous, il paraît.
Je l'ai fait moi-même. Avec...
Et moi, par exemple, si je le mets, je vais avoir du succès avec les hommes?
Non, non.
Oui, parce que... oui, parce que j'ai mis 10 ans à faire ce parfum.
Vous le portez aujourd'hui?
Ah oui, je le porte tout le temps.
Oui, oui. Mais là,
ah oui, moi, je veux bien voir s'il me va.
Elle en met sur les hommes à côté de lui.
Il y a 12 divorces
en
rentrant à la maison. C'était pour le boulot.
Alors vous savez, j'ai étudié l'effet normaux.
Oui. Anne, laissons pour les autres.
Je mets la dose. Hein.
Ah ben là, il y a plus un moustique dans le 8e là.
Non, mais vous verrez Anne comme c'est un parfum.
Ah oui, pour... c'est très sensuel.
Ah oui, c'est pour attirer les hommes et les femmes.
Ça suffit.
Ah, mais non, les femmes, c'est... ça va.
Non, mais c'est un...
Ne vide pas la bouteille.
Ah, Anne, vous allez.
Non mais on rêve.
Vous allez avoir tous les labradors du quartier qui vont vous suivre.
On est mis sur les chevaux parce que c'est...
Mais oui. Ouais. Oh là 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 là.
Ah, vous êtes mignonne. Ben, ça me fait plaisir de voir mon parfum se plancher pour vous.
Donc je fais ça et une nuisette et quoi d'autre?
Oui.
Non, c'est tout.
C'est tout. Voilà. Je sors dans la rue en nuisette.
Et du rouge à lèvres quand tu te lèves.
Ah, du rouge à lèvres quand je me lève.
Voilà, un petit peu de rouge à lèvres quand on se lève.
Ah, disons, ça sent à 3 mètres.
Ouais,
mais il est vraiment délicieux. Et il y a un peu de musc.
Ça qui est doux.
Moi, je le trouve érotique.
Elle a envie de se faire l'amour à elle-même. Elle se renifle.
Non, ouais, c'est fort hein, quand même.
Voilà.
Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre là, parce que
il y en a pas.
La tête qui tourne.
encore.
Ariel Dombal.
Oh, vous me faites plaisir, Anne.
Qui a maintenant le même parfum que moi.
L'inversion des
rôles.
Peut-être
qu'il faut que je me fasse teindre en blonde aussi, c'est ça.
Ah, c'est ça qui manque, ouais.
Mais je ne crois pas, je crois que vous êtes le style un peu Betty Boop. Piquante, ouais. Un peu piquante, ouais. Hein, le côté, oui, c'est ça, c'est les figurines des pin-up des années 40.
Fais Poupoupidou pour voir.
Poupoupidou, I want to be loved by you, just you and nobody else but you. I want to be loved by you alone. Poupoupidou.
Allez, ouais, tout de suite, ça le fait.
Allez, Anne, la même chose, allez-y.
Ariel Dombal, Léa Londo a quelques questions à vous poser.
Oui, Ariel Dombal, Laurent Ruquier vous a donc choisi pour faire partie du spectacle musical Les Parisiennes qu'il produit. Je suis donc allée le voir pour qu'il me parle de vous.
Oh.
Laurent Ruquier, il faut le reconnaître, une Parisienne, c'est connu pour être une casse bonbon. C'est pour ça que vous avez choisi Ariel Dombal ?
C'est pas la plus chargée que j'ai pu connaître.
Et Laurent a répondu à des vraies questions ou c'est un truc, un montage ?
C'est un petit montage.
Ah, c'est un petit montage. Mais quelle est coquine, celle-là.
C'est rien de le dire.
Mais je me dis, un producteur qui est face à quatre femmes comme ça, il doit forcément avoir une chouchoute. Alors moi, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Je lui ai dit, Laurent Ruquier, vous pensez quoi d'Inam Ohdja ?
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Et de Maréva Galanterre ?
Elle est surprenante et moi, c'est ce que j'aime.
Et Elena Noguera ?
Elle était parfaite.
Et Anne Romanoff ?
Je ne travaillerai pas avec elle.
Ah bon, pourquoi ?
On lui a fait des propositions intéressantes qu'elle ne voulait pas laisser passer.
Ah, je comprends mieux, Vénard. Ok, et bon, et Ariel Dombal, vous en dites quoi ?
Je trouvais qu'elle était déjà dans le rôle.
Waouh, ça vous a pris du temps de vous mettre dans la peau d'une chanteuse gay des années 60, Ariel Dombal ?
Non, parce que il fallait comprendre le style de Bowling, que tout le monde connaît d'ailleurs sans vraiment toujours l'identifier, mais il a fait à peu près une centaine aussi de musique de film. C'est un très grand compositeur, c'est comme Michel Legrand, c'est la même génération, quoi. Et c'est très swing et c'est par exemple Borsalino. L'aventure, c'est pour les loups, c'est pas pour toi, ce n'est pas pour nous. Mais nous, on a le cinéma, oh, pour 8 francs 50, on peut aller n'importe où. Ça, c'est du Claude Bollin.
Wow. Oui, c'est. Mais avouez-le, Laurent Ruquier, travailler avec 4 si jolies femmes, ça vous a pas donné envie de changer de bord et vous mettre à en séduire ?
Oui, pourquoi pas, une ou deux ou trois dans l'année.
Vous avez vu un peu votre pouvoir, Ariel Dombal ? À votre avis, Laurent Ruquier, avec quoi Ariel Dombal peut le mieux promouvoir le spectacle Les Parisiennes ? Il m'a dit avec...
La petite phrase qui va faire tilt.
Alors Ariel Dombal, c'est donc à vous. Comment convaincre avec la petite phrase qui va faire tilt ?
Les Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais. Voilà.
Waouh.